Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise, du 8 au 10 décembre 2021 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec TK Elevator, Cité Verte Europe et bien ici sur Radio Immo.
Salut à tous, il est 9h30, quasiment passé de 5 bonnes minutes. On est ici en direct au Palais des Congrès Porte-Maillot pour cette édition 2021 du CIMI. Prenez bien soin de vous parce que j'ai regardé les chiffres ce matin. 50 000 nouveaux cas de contamination ce matin, vous imaginez, avec une tension réanimation. Donc soyez très vigilants, parce qu'on n'est pas totalement sorti de la crise sanitaire. Alors ici, toute l'industrie immobilière est réunie. Alors c'est une première sur Radio Immo, je crois d'ailleurs, puisqu'elle n'est jamais passée sur notre plateau. Une femme entrepreneuse, voilà, ça nous fait du bien de les avoir sur le plateau. Déborah Fritz est avec nous, bonjour.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Déborah?
Bien et vous?
Je suis super content de vous voir.
Ça me fait plaisir aussi.
Voilà, vous êtes rayonnante. Alors, vous êtes la fondatrice, on dit CEO, ouais, c'est vrai que ça claque. Hein. Bah oui, voilà, CEO. Donc, on va dire, moi j'aime bien les... Je déteste un peu, tout le monde le sait, les anglicismes. Alors, on va dire qu'elle est présidente, fondatrice de Maïri, c'est ça?
Oui, alors comme vous aimez
pas... Moi, je mets Mire, mais en fait, c'est Maïri.
Ouais, vous aimez pas les anglicismes, mais c'est Maïri
l'estate. Non, mais c'est plus facile pour se développer à l'étranger, bien
tout
évidemment.
À fait.
Je vous taquine. Alors, Déborah, en quelques mots, alors comme nous, on vous connaît assez peu, hein, Radio Immo, et il était temps qu'on répare cette injustice, d'ailleurs. Parlez-nous un petit peu de Maïri. Vous êtes alors start-upeuse, tech.
Start-upeuse et tech, et volontairement aussi très tech. C'est-à-dire qu'il faut amener cette tech dans l'immobilier, amener des ingénieurs côté développement informatique dans l'immobilier. Donc, Maïri, c'est une start-up tech qui vient traiter la data immobilière, mais la data de gestion, la data financière et la data juridique de l'immobilier pour le compte des asset managers.
Alors, un asset manager, c'est quelqu'un qui fait de l'arbitrage, de la gestion, de la location d'actifs.
Oui.
Qu'est-ce que vous lui apportez très concrètement?
On lui apporte toute sa donnée sous un même toit et dans des formats complètement modernes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut avoir toute sa donnée dans son téléphone en un coup d'œil. On va venir récupérer toute sa donnée de gestion.
Valeur locative, profondeur de marché, niveau de transaction, quoi.
Alors, pas des données marché, ses propres données à lui. On verra dans un second temps pour lui amener effectivement des données de marché. Mais nous, on va lui ramener sa donnée à lui qui est éparse aujourd'hui, puisque vous savez mieux que moi, c'est un marché extrêmement intermédiaire. Et tout le monde a un petit bout de la data. Là, on est sur une plateforme qui est collaborative et qui vient ramener toute cette donnée pour le compte de l'asset manager dans son environnement à lui.
Un exemple concret,
on va être branché sur un property manager, donc on va ramener toute la donnée de gestion. On va également avoir les comptables qui vont fournir de la gestion. On va avoir les évaluateurs qui vont se connecter, ramener les données d'évaluation. On va avoir les notaires, les avocats, on va avoir les banques aussi, puisqu'on traite tout le financement de l'actif pour avoir un TRI ou un multiple instantané et avoir tous les éléments pour l'actif pour une session sur lequel on a un click button et on envoie tout pour la session.
Alors on va... respirer entre les phrases et essayer de traduire un peu pour nos amis. TRI, taux de rendement interne.
Oui, donc c'est la rentabilité de l'actif.
D'accord, sur le portefeuille existant.
Sur un actif, sur un portefeuille existant, sur des sociétés de détention, plusieurs axes d'analyse. On peut regarder en fait un portefeuille complet sous plein d'angles.
Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un outil d'aide à la décision?
On peut dire de nous qu'on est un outil d'aide à la décision et de contrôle de data. C'est-à-dire que cette donnée qu'on ramène, on vient la contrôler avant de l'exploiter.
Un outil de pilotage, donc.
Aussi.
Alors, un outil de pilotage dont se servent assez bien les asset managers. Le mode d'utilisation, c'est quoi? Une application responsive?
Une application responsive. On n'a pas développé une application pour Android, pour iOS, etc. On a D'accord. vraiment une application responsive qui vient du web.
C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors, justement, on va essayer de voir un petit peu dans la vie courante, avec les incertitudes de marché, les foncières aujourd'hui qui ont réaligné complètement leur stratégie d'allocation d'actifs. D'ailleurs, hier, j'ai eu le plaisir d'animer une conférence qui s'appelle « Les grands gagnants de la crise ». C'est qui les grands gagnants de la crise quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, quand on voit par exemple que le bureau, le bureau est un peu atone hein, quand même, dans une certaine mesure, mais ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne assez bien dans le QCA, enfin dans le quartier central des affaires, ça fonctionne dans les zones tendues. Première, deuxième couronne, on est sur des inquiétudes justement là-dessus. On a vu des foncières qui réalignent leurs actifs aujourd'hui maintenant sur du résidentiel de façon très opportune. Hein.
C'est ce qu'on voit aussi chez nos clients.
Ils ont redécouvert les vertus du résidentiel alors qu'ils s'en étaient bien débarrassés quand même il y a une quinzaine d'années. Faut dire que c'était un peu l'embellie dans le bureau pendant quelques années. Est-ce que vos outils aussi essayent finalement, je ne vais pas dire de rendre prospectif ou même d'anticiper ou d'être un peu prédictif, de se dire finalement, bah, cet outil me permet aussi de façon agile, rapide, d'envisager de nouvelles stratégies d'allocation d'actifs ou pas?
Alors complètement, puisqu'on peut scénariser en fait l'ensemble, on peut scénariser l'ensemble de nos hypothèses et de nos données, réarbitrer des fonds, etc. Nous, on a constaté les mêmes choses que vous tout à fait. On a aussi constaté du développement de la logistique, puisqu'on est, nous, on est agnostique de la classe d'actifs. Donc on voit un développement logistique assez fort. On voit aussi des maisons de santé, acteurs qui font que de la maison de santé, donc des réallocations d'actifs, effectivement, le bureau...
Ou du jeune, ou de la résidence gérée.
La résidence gérée, on a plus de maisons de santé pour le coup chez nous, mais voilà...
C'est co-living, par exemple, des choses comme ça?
On n'a pas encore de clients en co-living, mais encore une fois, on est agnostique du sous-jacent.
Est-ce que, justement, on va expliquer, c'est quoi un sous-jacent?
C'est quoi un sous-jacent? C'est une classe d'actifs, et donc cet actif, c'est à partir du moment où il y a quatre murs, mais ces quatre murs peuvent servir à... plusieurs choses, du bureau, de la logistique, de la maison de santé, de la résidence gérée, etc.
Voilà, pédagogie, bravo, débat. Alors justement, on va essayer d'approfondir de façon prosaïque. On a bien compris que vous aviez... On a un peu de Larsen dans le micro, c'est le principe du direct. Alors je ne sais pas si c'est lié au truc... Voilà, David, si tu peux... Voilà, merci. On est en direct, c'est normal. Voilà, c'est très bien, mais... Toute ma vie, j'ai rêvé de dire ça à la radio, donc c'est très bien. Déborah. Alors, il y a une chose que j'apprécie particulièrement dans votre activité, c'est que vous arrivez finalement de façon mathématique, avec des protocoles, assez bien à définir finalement un cadre qui est très facile à utiliser. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est la fluidité. Est-ce que ça veut dire qu'au départ, quand vous avez travaillé le modèle, vous aviez déjà pensé à l'utilisateur?
Bah complètement, puisque j'étais moi du côté de ces utilisateurs, puisque j'étais directrice financière.
Vous êtes une directrice financière d'origine.
Exactement.
Alors, qu'est-ce qui vous a appris de passer à la tech alors?
Qu'est-ce qui m'a appris de passer à la tech?
Pourquoi vous n'avez pas créé une foncière et un fonds d'investissement?
Pourquoi? D'abord parce que la tech m'a toujours intéressée, que déjà quand j'ai débarqué dans l'immobilier, moi je viens de la banque, je viens du wealth management, donc pas du tout de l'immobilier. J'ai débarqué dans ce monde de l'immobilier et j'ai pas compris comment on gérait 2 milliards avec rien, avec pas d'outils, puisque quand j'ai débarqué chez Beacon, c'était ça. Et donc j'ai eu envie de développer, j'ai toujours été intéressée par ça. Ma formation initiale, c'est de la modélisation, c'est pas de la finance pure, donc moi j'ai fait des maths et de la modélisation. Donc l'idée, ça a été d'appliquer tout ça et d'en construire un modèle, mais en travaillant énormément sur l'expérience utilisateur et sur la fluidité, du web pour permettre d'avoir accès à mes données. On veut sortir complètement de ces modèles Excel à 53 onglets.
Maîtrise totale des usages, ça c'est sûr. De toute façon, entre nous, on est passé aujourd'hui d'un univers techno à un univers... client-centrique, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Alors justement, comment ça se passe sur le marché aujourd'hui pour Maïri? Est-ce que vous avez de bonnes performances? Ça fait 6 ans que vous existez.
5.
5. Bon, vous n'êtes plus une start-up maintenant au bout de 5 ans.
Alors tant qu'on lève des fonds, on est une start-up.
Ah oui. Bon, vous levez des fonds ou vous incinérez des fonds? Non, je vous taquine. Bon. Nous, on est nés il y a 6 ans, mais on n'a jamais levé de fonds. Mais nous, on a été formés un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que voilà, on développe. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Aujourd'hui, dans le capital de Maïri, c'est qu'il y a beaucoup des fonds d'investissement, des opérateurs, des industriels. Alors, c'est trop confidentiel.
Non, aucun problème. Puis on communique, on vient de lever 7 millions d'euros, donc on communique dessus sans souci. Sympa. Voilà, sympa, ce qui fait à peu près 12 millions depuis qu'on existe.
Quand même.
Oui.
Sans trop diluer Madame Fritz ou...
On va bien.
Bon, ça va. Ah non, mais attendez.
Je suis journaliste, je
me permets de poser des questions, vous êtes libre d'y répondre.
On garde notre majorité.
Voilà, c'est important. Comme vous le savez, je suis vice-président d'un mouvement qui s'appelle French PropTech.
Oui.
Donc on est très attentif à ce genre de sujet. Ce sont des investisseurs privés, des fonds d'investissement?
Alors on a...
Ou des industriels qui se sont dit, tiens, c'est intéressant.
Un peu de tout.
D'accord.
On a un peu de tout. On va avoir Naxicap en fonds de private equity, New Alpha en VC. On va avoir des business angels comme Jean-Pierre Levat, par exemple, et des groupes industriels comme le groupe Terreau.
C'est intéressant, finalement, votre formation, parce que du coup, ça vous a permis de faire ces montages de façon assez bien appréhendée. C'est là que votre formation de base a certainement compté. Combien de collaborateurs chez Maïri?
35.
35 aujourd'hui, installés dans Paris, déployés sur la France.
Déployés sur la France.
Et déployé aussi dans d'autres pays d'Europe.
Exactement. On n'a pas encore déployé nos collaborateurs sur l'Europe, mais on est déjà adapté à 9 pays environ Parce que nos clients français ont des actifs partout en Europe.
Votre stratégie est orientée sur le tertiaire essentiellement aujourd'hui ?
Non. Non, toute classe
d'actifs. Toute classe d'actifs, etc. Avec plutôt des cibles clients, des cibles foncières, administrateurs de biens. Le petit propriétaire, ça vous intéresse ou pas ?
Le petit propriétaire nous intéresse. Nous intéresse clairement. Donc, on a une offre segmentée.
Vous avez un produit de gestion et d'administration de biens délégués,
oui.
Dans une certaine mesure,
oui.
Où vous mettez à disposition, peut-être, est-ce que vous pourriez mettre à disposition un outil de gestion pour des administrateurs de biens professionnels qui ont des lots en gérance ?
On pourrait tout à fait le faire. On ne va pas toucher au syndic de copro, ça c'est vraiment quelque chose
qu'on ne regarde pas. Oui.
Mais en revanche, oui, pour des lots en gérance, sans problème.
Donc sur un marché concurrencé, mais sur une volumétrie nettement plus importante. Ça fait partie de la stratégie de Maïri.
Ça fait partie de la stratégie.
Eh bien écoutez, moi je vais vous dire une chose, vous avez parfaitement raison.
Merci.
Parce que je pense qu'avec la leçon de la crise sanitaire, vous avez compris, il faut saisir des opportunités. Et en plus, vous avez cette chance extraordinaire, c'est d'avoir techniquement mis au point un outil qui demande qu'à se développer. Avec les données que vous possédez aujourd'hui, enfin, que vous possédez, que vos clients possèdent, je précise, j'aimerais aussi qu'on évoque le principe de la souveraineté numérique. Mm-hmm. Ça vous va comme sujet ?
Ça me va très bien.
Alors, la souveraineté numérique, c'est un vrai sujet. Dans notre groupe Web Radio Audition, on avait fait le choix à l'époque d'utiliser des hébergeurs français, malheureusement, puisque toutes nos données ont brûlé à Strasbourg.
OVA, OK.
Et en plus, le NAS était juste à l'étage au-dessus. Donc,
OVA.
Voilà, un truc bien, bien costaud. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix pour l'hébergement ? On est obligé de passer finalement par des clouds américains Alors, je les cite, il y a Google, il y a Apple, il y a Amazon, voilà.
Nous, on est très à l'aise de dire qu'on est chez AWS. Ouais. Alors, pourquoi on a fait ce choix d'AWS qu'on a bien étudié ? D'abord, parce qu'il était en Europe. Mm-hmm. Nous, on a trois points différents en Irlande. On pourrait en rajouter un en France également, mais on n'a pas de demande client là-dessus.
Avec aucun risque systémique de perdre des données.
Bah, c'est sur trois points différents. Ben, s'il y en a un qui crame,
Les deux autres. Voilà, vous n'avez pas fait comme chez OVH, en installant le NAS juste au-dessus du...
Non. Non, on a trois sites.
Il faut vraiment être couillon pour faire ça, quoi. Hein, mais je le dis à dessein, là. Si vous m'entendez chez OVH, c'est bien.
Le point, c'était de voir qui nous offrait les meilleures sécurités, les meilleurs standards.
Parce que les clients, c'est injonction absolue, hein, on est d'accord là-dessus.
Oui.
Ils le savent, ça ?
Qu'on est chez AWS ?
Oui.
Oui, tout à fait.
Ils sont très vigilants sur la protection des données ?
Très vigilants sur la protection des données, au point que dans nos contrats, nous n'avons pas accès aux données du client.
D'accord. Très bien. Très bien. Alors, justement, cette question de la souveraineté, est-ce qu'elle est, à votre avis, d'un point de vue... Alors, je sais que vous ne faites pas politique, hein, je sais, vous êtes une entrepreneuse, mais on ne peut pas se dédouaner d'un climat régulé ou d'un schéma de gouvernance. On est d'accord là-dessus. À un moment donné, on est obligé de faire un peu de lobbying, etc. Est-ce que cette question de souveraineté des données, vous ne pensez pas qu'il serait temps, un jour, que les personnes prennent à bras-le-corps cette question ? Est-ce qu'à votre avis, une protection des données, une souveraineté numérique, elle peut être nationale ? Ou est-ce que c'est un vœu pieux de penser qu'en France, on peut avoir des hébergeurs français qui protègent nos données ?
Moi, je pense que c'est un vœu pieux. Je pense que c'est un vœu
pieux.
Je pense qu'à l'échelle, l'échelle française, et qu'on n'a pas le choix, si l'Europe construisait son propre data center, et mais de façon consolidée par rapport aux Américains, on y arriverait peut-être.
Ça, c'est une super idée, ça.
Mais en France, on ne va pas y arriver tout seul.
De penser un cloud, enfin, de penser une souveraineté des données au sein de l'Europe,
oui.
Serait effectivement un schéma
acceptable. Qui serait plus réaliste,
d'accord.
Mais franco-français, non.
Est-ce que vous avez entendu parler du Cloud Act ?
Non.
Vous vous rappelez, aux États-Unis, à une époque, ils avaient fait le Patriot Act.
Le Patriot Act, bien sûr.
D'accord, tout le monde a connu. Le Cloud Act, c'est que les États-Unis, même si vous êtes dans un autre pays, si l'hébergeur est américain ou d'origine américaine, il a le droit, sans vous poser la question, de puiser dans vos données.
On a vérifié nos clauses dans tous les sens avec AWS et pour le coup, basé en Irlande sur des serveurs sécurisés dédiés à nos clients, aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller taper dedans.
Alors, ça, c'est un risque réel, justement, mais encore une fois, vous avez donné la réponse. Aujourd'hui, il n'y a simplement pas le choix. Quand on est, par exemple, avec Amazon ou d'autres gros du web, ils ont tellement de puissance d'hébergement qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat, en fait.
On n'a pas le choix, non seulement
pour les grandes marques, il n'y a pas d'offres alternatives, même européennes, qui permettent de faire, ou pas européennes, qui permettent de le gérer. Vous êtes exposante au CIMI.
Tout à fait.
On va donner le numéro du stand.
Au troisième étage, et je n'ai plus le numéro du stand.
Alors,
F145, ça
aide d'avoir des personnes dans le public. Donc, troisième étage, F145, les amis, si vous venez au CIMI pendant la journée, vous pouvez aller voir Déborah Fritz et ses équipes, donc F145 au troisième étage. La technique, de toute façon, il n'y a plus de débat aujourd'hui sur les données pour atteindre finalement un outil d'anticipation, de pilotage et de suivi de ces opérations. Je vous recommande franchement d'aller vers les marchés un peu plus massifié, hein, notamment sur l'administration de biens. Vous en êtes bien sorti avec la crise sanitaire ?
On s'en est bien sorti avec la crise sanitaire.
Est-ce qu'il y a eu un impact sur la crise ?
Évidemment, il y a eu un impact. D'abord, il y a eu un ralentissement net, premier confinement. Tous nos prospects clients nous ont dit « Attendez, on ne déploie pas de l'IT, là, on collecte des loyers, on renégocie la dette ». Voilà, ça a été le gros stop pour nous. Et finalement, dès le mois de juillet, on est reparti très très fortement puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient accès à rien en termes de data et qu'ils ont mis un mois pour avoir un niveau d'impayé, etc.
Merci Déborah Fritz. Merci, on va donner l'adresse du site internet. Alors le site internet, alors on va donner, c'est
getmyri.com.
Getmyri. Alors c'est, je vais dire ça pour David. Cher David, vous mettez GETMYRE, getmyri.com, www.getmyri.com. Voilà, le podcast est disponible sur l'application de Radio Immo et sur les agrégateurs de podcasts qui vont bien. Je vous encourage bien évidemment à faire le replay pour réécouter votre interview, Déborah Fritz. Voilà, on va vous suivre avec beaucoup de vigilance sur Radio Immo. On est heureux de vous avoir reçu sur le plateau. On vous souhaite un très bon CIMI. Qu'est-ce qu'on vous souhaite de plus pour l'année qui vient ?
Plein de clients. Voilà. Et une bonne santé.
Voilà, avant tout la santé et puis beaucoup de clients, beaucoup de prospérité. Ça aussi, c'est valable pour vous tous. On se retrouve et on entame notre seconde journée ici au CIMI. Salut à tous.
Merci.
Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise, du 8 au 10 décembre 2021 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec TK Elevator, Cité Verte Europe et bien ici sur Radio Immo.